Vous écoutez RTL.
Tout de suite sur RTL, on ouvre notre second thème de curiosité, ces expressions françaises que l'on n'a jamais vraiment comprises. Bonjour Julien Soulier.
Bonjour.
Bienvenue.
Bienvenue, vous êtes un passionné des mots, ancien prof de lettres classiques, membre du comité d'experts du projet Voltaire. Il y en a beaucoup de ces expressions, vous en avez trouvé une centaine pour un livre publié chez First. Tiens, par exemple, on rentre tout de suite dans le vif du sujet, tomber dans le panneau. Alors tout de suite, nous, on pense aux panneaux de signalisation sur les routes.
Ça n'a rien à voir. Vous êtes déformé par la vie citadine.
Ben oui.
Voilà, en fait, non, il faut être un petit peu plus campagnard, il faut partir à la campagne. Et le panneau, effectivement, ça vient d'un vieux mot français qui était le panel, en ancien français, qui a donné d'ailleurs le panel...
Pour les sondages.
Pour les sondages, exactement, d'accord. Via l'anglais. Alors là, c'est un petit, on a fait un petit détour.
Et donc, c'est quoi le panel à la campagne?
Alors, le panel, en ancien français, ça désignait un pan d'étoffe, en fait. Ça vient d'un mot latin qui veut dire un morceau d'étoffe. Et ensuite, donc, le mot a été utilisé dans le lexique de la chasse pour désigner un petit filet ou un pan d'étoffe, en fait, qu'on tendait pour attraper les animaux, pour les piéger. Donc on tombait dans le panneau, en fait, les oiseaux tombaient dans le panneau. Et ensuite, l'expression a envahi la langue courante. Donc c'est une expression qui vient de la chasse.
Et ben voilà, des A et des O, on va en avoir plein d'autres.
Et oui, d'ailleurs, Julien Soulier, vous publiez Bailler aux corneilles et 99 autres expressions que l'on n'a jamais vraiment compris. C'est chez First Edition, à les premières surprises, Bailler, B-A-Y-E-R.
Expression idiomatique, ça veut dire qu'elle est propre à un idiome, propre à une langue.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
Par exemple, en français, on dit « casser sa pipe pour mourir ». Il n'y a qu'en français qu'on dise « casser sa pipe pour mourir ».
La curiosité est un vilain défaut.
Le français en a beaucoup, l'anglais aussi, l'italien en abonde, il y en a un peu moins en allemand, mais il y en a dans toutes les langues.
Sur RTL.
C'est la semaine de la francophonie et de la langue française et ça nous a donné envie à la curiosité de découvrir l'origine de nos expressions avec l'ancien prof de lettres classiques Julien Soulier. Vous publiez « Bailler aux corneilles » et 99 autres expressions que l'on n'a jamais vraiment comprises. C'est chez First. Et alors j'avoue mon inculture, j'ai toujours écrit « Bailler », B-A-I-2-L-E-R. Et donc merci, parce que grâce à vous, maintenant, je vais arrêter de faire cette faute.
Vous écrivez souvent ça dans les SMS.
Bah, ça peut m'arriver, oui.
Tu bailles aux corneilles.
Oui, surtout avec les jeunes, ça leur fait les pieds. Je leur mets des SMS avec des mots qu'ils ne comprennent pas. Et donc, ça s'écrit B-A-Y-E-R. D'ailleurs, est-ce que ces deux mots ont un sens différent ou très différent?
Ben, en fait, non. En fait, quand vous écrivez bailler, B-A, accent, circonflexe, comme vous avez dit, eh bien, en fait, vous ne faites pas... Étymologiquement, vous ne faites pas vraiment une faute puisque les deux mots B-A-Y-E-R, donc l'orthographe exacte, et B-A circonflexe I-2-L-E-R, ont la même origine en latin. C'est un mot latin, un verbe latin qui voulait dire ouvrir la bouche. Alors, dans un cas, on ouvre la bouche pour rêvasser et dans l'autre cas, on ouvre la bouche pour oxygéner un petit peu son cerveau.
Oui, mais alors, voilà. Mais alors le rapport avec les corneilles, c'est là que ça se complique.
Alors là,
quoi.
C'est un petit peu plus compliqué. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'effectivement, même à la période de la Fontaine, par exemple, les deux verbes sont en concurrence avec le même sens, donc il y a eu un petit flou, on va dire. Ouais. Et c'est un petit peu plus tard que les grammairiens, donc au XVIIe, ont bien séparé les deux orthographes, en compliquant finalement un petit peu le schmilblick. Et alors effectivement, le corneille est un petit peu bizarre, puisque on se dit, bah, pourquoi la corneille? C'est un petit peu étrange. Et en fait, ce sont un peu des suppositions, mais les étymologistes pensent qu'en fait, la corneille, à cette époque, était un animal très fréquent et un peu insignifiant.
Qu'on voyait souvent.
C'était le pigeon de l'époque, quoi.
C'est ça, exactement. C'est un animal un petit peu de pas grand-chose, quoi. Et donc, bailler aux corneilles, c'est bailler pour des pas grand-chose, pour des futilités.
D'accord. Julien Soulier...
On va dire bailler aux pigeons, alors.
C'est ça, on pourrait dire ça.
À Paris, oui, on pourrait.
Je suis ravie que vous soyez là, parce que souvent, j'ai des conversations avec Thomas Hugues, notamment sur les sujets. Oui. Et l'autre jour, je lui propose quelque chose, et il me dit, oh non, mais ça, c'est de la roupie de Sansonnet.
Ah bah oui,
je comprends pas déjà ce qu'il dit. Qu'est-ce que c'est, cette expression? C'est de la roupie de Sansonnet. Déjà, ça veut dire quoi?
Alors, vous allez, il faut apprendre le Thomas Hugues, visiblement, pour bien comprendre. Mais effectivement, alors, roupie de Sansonnet, c'est assez joli, hein. On a l'impression que c'est quelque chose d'assez mignon. Alors, ça veut dire une bagatelle, rien du tout, une futilité. Donc, et souvent, c'est utilisé à la forme négative. Ce n'est pas de la roupie de cette émission, ce n'est pas de la roupie de Sansonnet. Ça veut dire que c'est quelque chose de bien, enfin d'important. Ouais. Alors, les deux mots, finalement, nous sont assez mystérieux. Le premier, roupie, est pas très très joli dans son
sens.
Monnaie. Non, justement, ça vient pas du tout de la même langue. Là, il y a une espèce d'homonymie un petit peu fortuite. Donc là, effectivement, la monnaie, c'est roupie, mais ça vient, je crois, de l'hindoustani rupia, qui a donné roupie.
D'accord.
Mais là, notre roupie, alors, on connaît pas trop l'étymologie, mais on sait que ça désigne une petite goutte de morve qui pend au bout du nez.
C'est adorable.
C'est pas, ouais, c'est pas très
c'est
joli.
C'est moins poétique d'un
seul coup. Tout de suite, c'est moins joli. Ouais.
C'est
donc c'est un petit quelque chose. Et le sansonnet, en fait, ça vient de...
C'est un diminutif,
ça vient de Samson, qui désignait les tourneaux. Hein. Donc il n'était pas rare au Moyen-Âge, en fait, de désigner des animaux par des noms propres. Par exemple, le robin, qui désignait le bouc, et qui a donné le robinet, parce que les premiers robinets avaient une forme de tête de mouton.
Alors, on va parler de poils, parce que je ne sais pas pourquoi vous marrez. Tout le monde est mort de rire, et j'ai l'impression que j'ai quelque chose
parce
qui me
pend au nez. Parce qu'on pense à notre journaliste, Bastien Robin, qu'on va appeler maintenant Bastien Le Bouc. Il est vraiment très content, quoi. C'est super. Il y en a pour tout le monde dans cette émission.
Je n'avais pas connecté, effectivement. Bonne vanne. Et donc, dans cette émission, on a parlé de poils. D'ailleurs, vous pouvez la réécouter sur RTL.fr. C'était il y a quelques jours.
L'histoire de notre pilosité, c'était super.
Pilosité, oui. Et il y a pas mal d'expressions qui sont liées aux poils sous leurs différentes formes. On va dire avoir du toupet. Ça veut dire avoir de l'aplomb, oser faire quelque chose. Le toupet, c'est quoi, Julien Soulier ?
Alors, à l'origine, ça vient d'un mot francique. Le francique, c'était la langue des Francs, c'est une langue germanique. Ouais. Ça vient d'une racine francique top, qu'on retrouve sans doute en anglais top, qui voulait dire le sommet. C'était une petite touffe de poils sur le sommet du crâne.
D'accord.
Et ensuite, ça a désigné dans la langue familière le cerveau. Et puis après, alors évidemment, quand on s'emporte dans son cerveau, alors ça désignait différents types d'emportement, la colère, l'impatience. Et ensuite, ça s'est spécialisé dans l'aplomb et dans l'audace. Et on a un peu la même métaphore, si vous voulez, avec effronter ou avoir le front. On est aussi dans l'idée
dans
la tête.
Et quand on reprend du poil de la bête, Julien Soulier, on peut en du poil de qui, en fait ? De quelle bête ? De quel animal ?
Alors,
je regarde mes poils. Hein.
En fait, l'origine de cette expression remonterait au moins à l'Antiquité. On trouve chez Pline l'Ancien, donc le naturaliste qui est mort en 79 dans l'éruption du Vésuve. Hein, il est assez connu pour ça. Mm-hmm. On trouve l'expression, effectivement, reprendre du poil de la bête, pour dire qu'en fait, pour se soigner, quand on a été mordu par un animal, on prend les poils de cet animal pour frotter la blessure. Un petit peu une espèce d'homéopathie de l'époque. Quoi. On se soigne avec la cause même du mal, en fait.
Et ça, ce monument de la chanson française.
Je ne veux pas savoir ce que vous faites le week-end, moi, ça m'intéresse pas.
Mais oui, parce qu'il est aussi question de poils et d'animal.
Bah oui, pauvre Bézu. Oui, je connais aussi les grands classiques des chansons à texte. Oui. Alors oui, à la queue leu-leu, c'est très intéressant parce que finalement, l'expression représente bien ce qu'elle exprime. À la queue leu-leu, on a trois fois le son E. Oui. Et puis on a ces deux le comme ça qui se répètent, qui sont un petit peu bizarres.
Et alors c'est quoi le le ?
Et en fait, étymologiquement, ils n'ont rien à voir. Le premier, c'est un article qui a été déformé, c'est le LE, l'article le Lalet. Et le LEU, en fait, c'est en ancien français, ça désignait le loup. On le retrouve dans certains noms de villes, hein, Saint-Leu-la-Forêt, ou dans des noms de famille, Canteleu, Leleu, Canteleu, Canteleu, enfin voilà, on reconnaît. Et donc, ça voulait dire, en fait, à la queue leu, c'était à la queue du loup, donc les loups se suivant les uns à la suite des autres, à la queue leu-leu. Et l'expression ensuite n'a plus été comprise, et elle a été déformée en leu-leu.
Oh, on se reprend un peu de Bézu, là, c'est trop bon. On a encore plein d'expressions à découvrir. Par exemple, veiller au grain. On est à la campagne ou alors en pleine mer ? Réponse à venir dans un instant sur RTL.
En France, nous, on se souhaite bon appétit.
RTL.
On est le dimanche midi, il y a le gigot qui est au milieu de la table, le beau-frère qui est en face. On a tous la fourchette à la main.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Il y a quand même une vieille angoisse qui plane sur nos tables à nous, c'est est-ce qu'on va avoir de l'appétit ?
La curiosité est un vilain défaut.
Qu'est-ce qu'on va dire de moi au poulailler ?
Jean-Marie Bigard qui joue et se pose des questions sur les expressions. Est-ce qu'on dit bon appétit, pas bon appétit ? D'ailleurs, je crois qu'on l'avait vu dans une de nos émissions sur le savoir-vivre qu'il ne faut pas dire bon appétit parce qu'on ne fait pas référence au système gastrique des humains qui sont avec nous autour d'une table. Comme ça, c'est réglé. Nous, en tout cas, on découvre le sens caché d'une centaine d'expressions à l'occasion de la semaine de la langue française et de la francophonie. Et notre prof à nous, c'est Julien Soulier qui a enseigné les lettres classiques au collège. Alors, on l'a vu avec vous et pas mal d'expressions. Le français, c'est une langue savoureuse, facétieuse, avec des mots qui peuvent prendre plusieurs sens en fonction des lieux. Par exemple, un grain à la campagne et en mer, ce n'est pas la même chose.
Exactement. Bon, le grain à la campagne, on connaît dans les silos. Enfin voilà. Et ce mot, par métaphore, a désigné les grêlons. Les grêlons qu'on se prend sur un bateau.
Ouais.
Donc, par ressemblance en fait avec le grain, les grêlons ont désigné une espèce de coup de vent accompagné de pluie et de grêle. Et donc, veiller au grain, c'est sur un bateau scruter l'horizon En se préparant à la manœuvre en cas de grain, d'orage ou de tempête, en fait.
Donc, ça ne veut pas dire protéger ses graines.
Non, pas du tout. À l'origine, c'est pas protéger ses graines dans son silo, c'est effectivement faire attention à l'orage qui arrive, en fait.
Alors, dans votre livre, Bayeux Corneille, qui est publié chez First, vous dites que, et on l'a un peu évoqué tout à l'heure, la civilisation automobile, elle a vraiment envahi notre univers et d'une certaine façon, restreint le sens des mots. On va prendre quelques exemples, et d'ailleurs, le tout premier, la voiture.
En effet.
La voiture, c'est beaucoup plus large que cette automobile qu'on...
À l'origine, ça désigne tout mode de transport. D'ailleurs, dans les précieuses ridicules de Molière, on trouve, vous savez, ils se moquent un peu des précieuses et de leur langage un petit peu tarabiscoté, on trouve « voiturez-nous ici les commodités de la conversation ».
Ah oui,
pour dire
sûr.
En gros, abouler les fauteuils. Voilà. Donc effectivement, donc, voiturer, c'est juste l'idée de transport. Et puis effectivement, ça s'est spécialisé dans la voiture automobile et ce sens a quasiment phagocyté tous les autres.
Pareil pour le mot « frein », Julien Soulier.
En effet, le frein, à l'origine, ça désigne le mort du cheval, donc ce que mord le cheval, on lui met entre les dents.
Pour s'arrêter. Ouais.
Exactement, d'où l'expression « ronger son frein ». Ronger son frein, c'est pas avoir un problème avec son frein à main et puis il est usé, c'est pas ça du tout. C'est le cheval qui mord d'impatience son frein.
Et l'essence, c'est beaucoup plus poétique que le carburant.
Ouais, et même philosophique, puisque l'essence d'une chose, c'est son être profond, etc. Et puis ensuite, par l'alchimie, par les termes d'alchimie, et puis par la pharmacie, ça en est venu à désigner l'essence minérale. Par raccourci, l'essence minérale, c'est le pétrole, donc l'essence.
C'est ce qui rend notre langue parfois si compliquée à prononcer sans bafouiller, notamment pour des étrangers, le fait qu'on ait des mots comme ça.
Exactement, des mots qui sont dans toutes les langues, ont des mots polysémiques, mais c'est vrai que nous, on a beaucoup de termes polysémiques, c'est-à-dire des termes qui ont plusieurs sens. Ça, mais c'est ce qui permet aussi de jouer avec les mots.
Mais c'est pour ça qu'on s'éclate, on
s'amuse. Oui, c'est ça. C'est pour ça que les Raymond DeVos ou les gens comme ça qui s'amusent avec les différents sens des mots nous font rire et nous régalent.
Et une expression que je comprends pas très bien, moi, c'est quand on dit être fier comme un pou. Moi, j'ai l'impression qu'un pou, c'est un peu négatif.
C'est moche, quoi.
Oui, alors pourquoi est-ce qu'on peut être fier comme un pou?
Alors bah justement, là, il s'agit encore une fois d'une homonymie un petit peu fortuite. En fait, c'est une erreur. Le pou ici, il ne s'agit pas du pou, le parasite qu'on a sur la tête. Ouais. Il s'agit en fait en ancien français, le pou, ça venait du latin poulus, qui désignait d'abord le tout petit d'animal. Et ensuite, ça désignait le poulet. On retrouve poulet. On retrouve pollo en espagnol, c'est pour les hispanistes, donc le poulet. Mmh. Et donc, ce mot poulus s'est déformé en poule, puis pou.
Ça veut dire fier comme un petit poulet.
Exactement, fier comme un coq, en fait, comme un jeune coq.
D'accord.
Et je croyais qu'il y avait aussi, avoir lu ça dans votre livre, que l'expression était un peu plus longue. Fier comme un pou sur l'épaule d'un prêtre.
Oui. Alors là, c'est un petit peu mystérieux. L'expression a été un peu rallongée, effectivement, pour qu'elle soit un petit peu plus expressive. Mais effectivement, c'est normalement le coq et non pas le parasite.
Il y a une autre expression, Julien Soulier, qu'on emploie très très souvent là pour le coup. C'est un bouc émissaire. Alors là, il y a de l'animal aussi là-dedans.
Oui, il y a de l'animal. En fait, ça vient de dans la Bible. Il y a énormément d'expressions bibliques dans notre langue. Vieux comme Mathusalem, trier le bon grain de l'ivraie, le retour du fils prodigue. Enfin, il y a énormément d'expressions comme ça qui sont tirées de la Bible.
Et le bouc,
et le bouc émissaire, en fait, c'était une tradition dans la communauté des Hébreux. Chaque année, en fait, on choisissait un bouc sur lequel on reportait symboliquement toutes les fautes, tous les péchés de la communauté, et ensuite, hop, on le lâchait dans le désert. Donc c'était, on l'envoyait, en latin émissaire, ça veut dire envoyé. Donc on le balançait dans le désert, voilà, et puis c'est lui qui portait toutes les fautes de la communauté, et tout le monde, voilà, était
tranquille.
Absous et tranquille.
Et
d'ailleurs,
dans refaire d'autres quelques péchés.
Voilà, exactement.
Ça permet,
ouais, exactement. Et s'entendre comme larron en foire, expression qu'on va aussi découvrir dans la Bible et que vous allez nous expliquer dans un instant, Julien Soulier, juste après la pause sur RTL.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues, les curieux sont sur RTL.
On s'offre un bain de bonheur en découvrant les expressions de la langue française, leur sens caché avec Julien Soulier, ancien prof de lettres classiques et membre du comité d'experts du projet Voltaire. C'est quoi le projet Voltaire?
Alors le projet Voltaire, c'est le leader sur la remise à niveau en orthographe, en e-learning, pour parler en bon français. Donc c'est une plateforme sur internet pédagogique qui vous permet de vous remettre à niveau en orthographe et en grammaire.
Quel que soit l'âge et
quel
le diplôme
Quel que soit l'âge, quel que soit le diplôme, il y a plusieurs niveaux, donc vous pouvez prendre un abonnement différent selon vos diplômes, selon vos besoins en fait.
C'est reconnu par les employeurs ?
C'est de plus en plus reconnu par les employeurs, effectivement. À la fin de l'entraînement, vous passez un certificat, donc le certificat Voltaire sur 1000 points, et puis en fonction de votre résultat, vous pouvez le mettre sur votre CV, et c'est valorisé maintenant dans les recrutements, dans les embauches, etc.
Parce que c'est malheureusement, on peut le dire, ou heureusement, je n'en sais rien, mais c'est un marqueur social en tout cas.
Exactement.
Le niveau d'orthographe, oui. Ça peut
vous faire
perdre un job.
Exactement, il y a une forte pression sociale sur l'orthographe. Et des études de sociologues ont même montré que dès la première faute, en fait, ou, sur une lettre de motivation, eh bien, les recruteurs jettent la lettre de motivation à la poubelle. Ouais. Parce que, alors, il y a l'orthographe, c'est la partie un peu émergée de l'iceberg. Mais en dessous, les recruteurs, à tort ou à raison, en induisent que peut-être la personne n'est pas très sérieuse, qu'elle est légère, qu'elle ne respecte pas son interlocuteur. Donc, voilà, qu'elle manque de sérieux.
Oui, c'est-à-dire qu'il peut y avoir quelqu'un qui fait des fautes d'orthographe, qui est brillant.
Bien sûr, et qui est très compétent dans son métier.
Et qui pourrait être très compétent, mais c'est dommage parce qu'il va laisser passer un job.
Voilà, exactement.
Tiens, d'ailleurs, vous publiez aussi par Humour du Français, Julien Soulier, l'orthographe, comme on ne vous l'a jamais expliqué, chez la librairie.
Mes éditeurs.
Non, non, mais vous avez raison. On va vous laisser.
Voilà,
c'est bien. Bah, on en a un autre. Baillot au corneil et 99 autres expressions que l'on n'a jamais vraiment comprises.
Et d'ailleurs, on va continuer de découvrir ces expressions. On peut écouter la curiosité d'ailleurs aussi pour découvrir plein d'histoires, plein d'expressions, plein de mots comme l'on le fait aujourd'hui avec vous. Et cette expression, s'entendre comme larron en foire. Pourquoi on trouve cette expression dans la Bible, Julien Soulier ?
Alors dans la Bible, vous savez, quand Jésus-Christ a été crucifié, il n'était pas tout seul. Hein. Il y avait avec lui deux voleurs. L'un qui s'est repenti et l'autre non, donc le bon larron et le mauvais larron. Et le larron, en fait, ça vient d'un mot latin, latronème, qui veut dire brigand, voleur, tout simplement. Et donc le mot, c'est un petit peu perdu en français, on l'utilise plus beaucoup.
Mais ça vient quand même pas de la partie d'horreur qu'a vécu Jésus et ses larrons, quand même. Parce que s'entendre comme larron en foire, ça veut dire qu'on passe du bon temps.
Oui, alors, c'est un tout petit peu plus compliqué, ouais. C'est-à-dire qu'il y a une période où, effectivement, donc ça désignait les voleurs, et puis la foire, c'est évidemment le marché public, comme il y en avait beaucoup au Moyen-Âge, donc s'entendre comme larron en foire, c'était s'entendre comme des voleurs qui vont aller faire un mauvais coup. Aujourd'hui, on dirait des pickpockets dans le métro, donc s'entendre comme des voleurs qui vont aller faire un mauvais coup dans une foire publique.
Julien Soulier, pour terminer, on va tordre le cou à une expression qu'on entend de plus en plus, et qui, pardon, est vraiment horrible, c'est « au jour d'aujourd'hui ». Alors, pourquoi il faut vraiment ne pas dire au jour d'aujourd'hui ? Parce que d'abord, aujourd'hui, c'est quoi ?
Alors, aujourd'hui, c'est déjà. Aujourd'hui, historiquement, bon, ça n'est plus perçu comme tel, mais historiquement, c'est déjà un pléonasme. Vous savez, quand vous dites deux fois la même chose, hein, monter en haut, descendre en bas, le tri sélectif aussi, qui est un pléonasme que tout le monde a intégré.
Aujourd'hui, c'est un pléonasme.
Alors, aujourd'hui, c'est un pléonasme, puisque le hui, ce petit mot-là, H-U-I, ça vient déjà du latin odier, qui lui-même voulait dire ce jour-ci. Donc quand on a rajouté « au jour d'hui », ça veut dire « ce jour-ci de ce jour-ci ».
Déjà.
Et donc quand on dit maintenant « au jour d'aujourd'hui », on dit trois fois la même chose. On dit « ce jour-ci de ce jour-ci de ce jour-ci ».
Mais pourquoi on dit ça ? C'est parce que c'est important de dire que c'est aujourd'hui, c'est
ça ? Oui, peut-être pour inciter. Alors oui, le mot est un peu court, donc moi je pense qu'il était un peu faible. Hein, donc on l'a un peu renforcé, on l'a un petit peu gonflé, on était un petit peu musclé, il a fait un peu de muscu. Et donc il est devenu « aujourd'hui ».
Il a pris un peu de dopamine.
Et puis là, maintenant, oui c'est ça. Et puis maintenant, bah, peut-être ça ne suffit plus, donc on rajoute « au jour d'aujourd'hui ». C'est un petit peu ronflant, mais bon, c'est
Julien
vrai que...
Soulier, vous avez 15 secondes pour nous dire ce que c'est une vie de patachon et d'où ça vient.
Alors, une vie de patachon, la patache, c'était un bateau, ça vient de l'espagnol qui lui-même vient de l'arabe,
ouais.
Et donc c'était un bateau, et ensuite ça s'est déplacé de la mer vers la terre, et la patache, c'était une espèce de petite diligence un peu low cost, on dirait ça comme ça aujourd'hui.
Il y a 5 secondes.
Low cost, et puis le patachon, donc comme il se déplaçait beaucoup et qui de nuit, de jour, etc., il avait une vie de patachon qu'une vie dissolue.
Vous êtes un héros.
Il est trop fort ce Julien Soulier, je le garde avec moi, je l'emmène sur CNews, parce qu'on parle de la langue française aussi tout à l'heure. Baillé au corneil et 99 autres expressions qu'on n'a jamais vraiment comprises, c'est chez First. Et puis, par humour du français à la librairie Vuibert. Merci beaucoup.
Merci à vous.
RTL.
La curiosité est un vilain défaut.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.